Notre priorité doit être Dieu et notre vie avec lui. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les plaisirs de la vie ne doivent pas être l'objet de notre recherche, ils ne doivent pas être notre priorité, sinon cela va étouffer la parole de Dieu et elle ne portera pas de fruits venant à maturité. Vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose, car c'est le terrain pour la parole de Dieu. Être attentif en refusant de vous inquiéter, de vous confier dans vos richesses et de donner la première place au plaisir de la vie, c'est une décision que vous pouvez prendre pour votre propre vie et qui va permettre à la parole de Dieu d'être puissante et agissante et de porter du fruit qui vient à maturité. 4/le bon cœur, c'est le quatrième type de cœur dont parle Jésus. Pour tous ces types de cœurs, je vous rappelle que la semence est exactement la même. En parlant de la bonne terre, Jésus montre que la semence va lever et donner du fruit au centuple. La bonne terre correspond à ceux qui écoutent la parole de Dieu avec le cœur honnête et bon et aussi qui la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Retenir, garder la parole dans votre cœur, vous y attacher, c'est ce qui va permettre à cette parole de produire le résultat que vous attendez. Jésus l'a dit, il l'a promis et il n'est pas un menteur. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Chapitre 7. Les obstacles à la guérison. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Esaïe 59. Un tiret de non, la main de l'Éternel, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. S'il y a bien quelque chose qui peut faire obstacle entre l'homme et Dieu, ce sont ses péchés. C'est ce qui a séparé l'homme de Dieu dès le commencement. Et c'est ce qui empêche l'exaucement des prières et la manifestation des bénédictions de Dieu dans sa vie. La guérison, comme nous l'avons vu, est la volonté parfaite de Dieu. Il veut que nous soyons en bonne santé. 3 Jean 1, 2 Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce verset nous montre bien la volonté de Dieu, par rapport à la prospérité, à la bonne santé, donc aussi à la guérison. Notre Père Céleste nous aime et veut le meilleur pour nous. Nous avons tous un Père terrestre, et normalement, un bon père de famille souhaite le meilleur pour ses enfants. Il veut que ses enfants soient bien nourris, bien vêtus, bien éduqués, en bonne santé, qu'ils réussissent dans leurs entreprises, qu'ils soient bien dans tous les domaines. Notre Père Céleste a ce même désir pour nous, ses enfants, qui avons cru en Jésus et qui l'avons reçu comme sauveur personnel. Romains 8, 32. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui, elle, a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et toutes ces choses nous appartiennent. Nous voyons autour de nous de bons pères qui font le maximum pour leurs enfants, ils leur paient les meilleures écoles et leur donnent toutes les chances de réussir dans la vie. Il y a des enfants qui reçoivent tout cela, en profitent et réussissent leur vie, mais il y en a d'autres qui, par leur comportement, gâchent ce que leur père leur a donné, certains avaient tout pour réussir, et pourtant, ils échouent lamentablement. Notre Père Céleste nous a tout parfaitement donné, et de la même manière, certaines personnes par ignorance, par leur mauvaise attitude, ou même par leur rébellion, gâchent la bénédiction de Dieu dans leur vie, et cela les amène parfois à vivre une existence encore plus médiocre que celle des inconvertis. Le PECHE et la maladie. Avant d'examiner de quelle façon le péché peut être un obstacle à la guérison divine, nous allons voir qu'il peut provoquer la maladie. Il y a quelque chose qui détruit la vie de l'homme, c'est le péché. Avant de recevoir Christ, comme sauveur personnel, nous vivions tous selon le train de ce monde. Nous étions dans nos péchés, ce qui d'une part nous envoyait en enfer, parce que nous étions séparés de Dieu, Nous étions ses ennemis et d'autre part, nos péchés détruisaient nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Le péché abîme et détruit l'homme. L'origine de la maladie n'est pas toujours directement liée à des péchés précis, mais elle peut l'être. Chaque fois que vous voyez quelqu'un de malade, n'essayez pas de deviner à quel péché est liée sa maladie, parce qu'on peut être malade sans avoir péché. Ne soyons pas comme les disciples qui un jour ont questionné Jésus à propos d'un homme aveugle de naissance. Jean 9, 1-3, Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Comme si cet homme avait pu pécher étant dans le ventre de sa mère. Ne voyons pas un péché derrière chaque maladie, car cela serait injuste et déséquilibré. Cependant, certains péchés peuvent provoquer certaines maladies. Par exemple, les gens qui s'enivrent régulièrement risquent une cirrhose du foie. C'est une conséquence directe d'un péché. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui souffrent de cirrhose du foie sont des ivrognes, ou pour vous donner un autre exemple, que toutes les personnes qui ont le sida vivent dans la débauche. Car malheureusement, bien des personnes innocentes sont atteintes de cette terrible maladie. Il existe aussi des cas de maladies qui sont des conséquences indirectes de péchés. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois. Lorsque Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, fut guéri de la lèpre dont il souffrait par un miracle que Dieu accomplit au travers du prophète Élisée, Élisée refusa catégoriquement de recevoir de l'argent ou un quelconque présent de la part de Naaman comme remerciement pour sa guérison. Il n'en fut pas de même pour le serviteur d'Élisée, qui essaya de profiter de l'occasion pour récupérer une somme d'argent et des vêtements. En effet, il utilisa un mensonge et fit croire à Naaman qu'Élisée l'envoyait chercher ces choses. Le Seigneur lui-même révéla à Élisée le mensonge et la tromperie de son serviteur. 2 Rois 5, 26-27 « Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours ?» Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Géasi s'est retrouvé lépreux suite à son mensonge et à sa tromperie, et vous savez, comme moi, que tous les gens qui mentent ne sont pas frappés de la lèpre, sinon il y aurait un nombre considérable de lépreux sur la surface de la terre. La maladie de cet homme était la conséquence de son péché, mais la relation entre le péché et la maladie était indirecte. Dans l'évangile de Jean, il y a aussi l'histoire d'un homme que Jésus a guéri. Par contre, pour le cas de cet homme, sa maladie avait un rapport direct avec ses péchés. Cet homme malade était couché au bord de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Jésus le guérit et quelque temps après, alors qu'il le rencontre dans le temple, il va lui dire Jean 5, 14 « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pour cet homme, il semble évident que ses péchés ont été la cause de sa maladie. Vivre dans le péché revient à donner un accès au diable dans notre vie. Éphésiens 4, 27 « Et ne donnez pas accès au diable. » Si vous lui donnez un accès, je vous garantis qu'il ne laissera pas passer l'occasion pour vous faire du mal et vous détruire, car il est meurtrier dès le commencement. Ceux qui vivent délibérément dans le péché s'écartent de la protection divine. Du fait que vous appartenez à Jésus, il y a une protection sur votre vie. Colossiens 3, 3 « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Restez sous cette protection est votre choix personnel. Certains chrétiens pensent que c'est le diable qui les pousse à pécher. Ils rejettent leur faute sur lui en disant: « Le diable m'a trompé, il m'a fait voler, mentir ou je ne sais quoi. » Je me souviens qu'un homme, un jour, avait essayé de voler mon sac à main. Quand on l'avait attrapé, C'est exactement le langage qu'il avait tenu. Ce n'est pas moi, c'est Satan qui m'a forcé à voler ce sac. En réalité, le diable n'a pas ce pouvoir sur nous. Il n'a qu'un pouvoir de suggestion. Jacques 1:14-15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Le diable a le pouvoir de nous tenter, d'ailleurs, on l'appelle le tentateur. La tentation est une forme de suggestion. C'est nous montrer que l'on peut obtenir n'importe quoi en désobéissant à Dieu et à ses paroles, mais c'est un énorme mensonge, car le péché peut nous amener à obtenir peut-être quelque chose au premier abord, mais à perdre bien plus que ce que nous avons obtenu de cette façon. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de résister à la tentation et de dire non. 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Sortir de la tentation pour hériter de la bénédiction. Gloire à Dieu. La repentance et la guérison. J'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui ont vu leur guérison simplement parce qu'elles s'étaient repenties et détournées de leur péché. Il y a des années de cela, un homme souffrait d'un cancer. Ce cancer était apparu sur sa poitrine le jour où il avait commencé à tromper sa femme. Pendant 2 ans, il a vécu cette situation, puis un jour il s'est repenti, un serviteur de Dieu a prié pour lui et cette tumeur cancéreuse a disparu instantanément. Si vous êtes malade et que vous sachiez que cette maladie est produite par un péché, le remède est la repentance. Jacques 5:14-16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ce passage nous montre clairement 2 choses. La maladie peut être causée par le péché, mais pas obligatoirement. Car dans le verset 15, on nous parle de la prière de la foi, qui va relever le malade et du pardon si des péchés ont été commis. La guérison vient au travers de la repentance et de la prière pour les maladies causées par le péché. La repentance est quelque chose qui est agréable à Dieu. Il est toujours prêt à pardonner, à guérir et restaurer ceux qui se repentent réellement. Tant que nous vivrons sur cette terre, il y aura des moments où nous aurons besoin de reconnaître nos erreurs et de nous repentir. Ceux qui refusent de se repentir vont perdre énormément, ils resteront dans leur péché et seront privés de la bénédiction. Gardons ce cœur enseignable, tendre et prêt à changer quand c'est nécessaire. Au début du siècle passé, il y avait un serviteur de Dieu qui avait un ministère de guérison. Son nom était John Lack. Il a vécu plusieurs années en Afrique du Sud où il a exercé son ministère. Souvent, des gens malades venaient chez lui pour qu'il prie pour eux. Ceux qui étaient guéris instantanément rentraient chez eux. Ceux qui n'étaient pas guéris restaient. Alors, la femme de Lack venait et, par le Saint-Esprit, elle recevait la révélation de ce qui empêchait leur guérison. Ce qui faisait obstacle était toujours des problèmes de péché ou de manque de pardon. Lorsque les concernés reconnaissaient leurs péchés et les confessaient, ils étaient guéris, alors que ceux qui résistaient et refusaient de se repentir rentraient chez eux avec leur maladie. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En d'autres termes, si nous restons avec nos péchés, nous resterons aussi avec nos maladies. Par contre, si nous confessons nos péchés, nous serons guéris. Beaucoup de chrétiens prennent la question du péché à la légère. Pourtant, le péché peut avoir des conséquences dramatiques dans la vie de l'homme. Certains s'attendaient à tomber morts lorsqu'ils pêchent, comme Anania et Saphira, qui avaient menti au Saint-Esprit Acte 5:4-10. Quand cela ne se produit pas, ils en déduisent que ce n'est pas si grave et se vautrent dans le péché. Ne jouons pas avec la bonté et la grâce de Dieu. Si Dieu devait juger instantanément les péchés des chrétiens, je pense qu'un grand nombre d'entre eux tomberaient morts brusquement. Mais Dieu donne toujours un temps pour la repentance. Séparez-vous du PECHE. Pour vivre dans le meilleur de Dieu, nous devons nous séparer du péché. Se séparer du péché, c'est fermer la porte au diable. Il y a un certain attrait dans le péché, mais tomber dedans fera toujours manquer le meilleur de Dieu. Si Adam et Ève avaient réalisé qu'en désobéissant à Dieu, ils donnaient au diable l'autorité que Dieu leur avait confiée, qu'ils allaient mourir spirituellement, c'est-à-dire perdre la relation qu'ils avaient avec le Créateur, puis finir par mourir physiquement, et qu'entre-temps, ils seraient chassés du jardin et auraient à travailler durement pour se nourrir, ils n'auraient certainement pas péché. Pourtant, Dieu les avait prévenus. Genèse 2, 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourrais manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu nous prévient du danger et des conséquences du péché. Vous savez, nos péchés ont coûté toutes les souffrances par lesquelles Jésus est passé. Nous avons vu que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Ne jouez pas avec le péché, car le salaire du péché c'est la mort. Le diable présente le péché aux hommes comme un appât que l'on présenterait à un poisson. Si le poisson savait qu'en mordant l'appât, qui à première vue paraît excellent, il mordait en même temps dans un crochet qui allait provoquer sa mort, il ne toucherait certainement pas à cet appât. En jouant avec le péché, vous risquez de vous attirer beaucoup de problèmes, et l'un d'entre eux peut être la maladie. Le pardon et la guérison. Nous avons précédemment étudié ce passage de Marc 11, 20-24, dans lequel Jésus fait une merveilleuse démonstration de ce qu'est la vraie foi et de ce qu'elle peut produire. Relisons ensemble les deux derniers versets de ce texte. Marc 11, 20-24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit : Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Jette-toi, de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le verset qui vient juste après le verset 24. Lisons-le. Marc 11, 25 et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. En lisant la parole de Dieu, il est toujours bon de voir un passage dans son ensemble. C'est ce que l'on appelle le contexte. Sinon, nous risquons de passer à côté de choses importantes ou de tirer des enseignements qui ne sont pas en rapport avec ce que la Bible veut réellement dire et qui sont même parfois carrément contraires à la parole de Dieu. C'est ce que l'on appelle les fausses doctrines. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il n'avait pas encore offert sa vie en sacrifice afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Depuis sa mort et sa résurrection, la seule condition au pardon de nos péchés est notre foi dans son sacrifice. Cependant, ce passage montre clairement que le fait de refuser de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal va bloquer quelque part nos prières. J'irais même jusqu'à dire que le manque de pardon amène la haine, le trouble, l'amertume, le manque de paix. Dans des cas graves, cela peut même faire perdre le sommeil et aller jusqu'à rendre quelqu'un physiquement malade. Le refus de pardonner bloque l'exaucement de nos prières et peut aussi bloquer la puissance de guérison divine. Jésus, à plusieurs reprises, a enseigné sur le pardon et a montré qu'il nous a pardonné bien plus que ce que nous n'aurons jamais à pardonner. Cela peut parfois sembler difficile à pratiquer et pourtant, le pardon est une puissance qui libère. Dieu nous a lui-même montré l'exemple. Il nous a pardonné gratuitement nos péchés et nos offenses en envoyant Jésus mourir pour nous alors que nous étions ses ennemis. Pardonnez et vous verrez la guérison couler à flot dans votre vie, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique. Chapitre 8. Graines de guérison. Versets de guérison. Ces versets de la parole de Dieu sont des versets de guérison. Si vous les lisez attentivement, que vous les méditiez et les déclariez sur votre vie, ils vont produire un résultat merveilleux. Le premier résultat est que votre mentalité va changer vis-à-vis de la guérison. Au lieu du doute et de l'incrédulité, la foi va naître dans votre cœur et vous allez commencer à voir les choses comme Dieu lui-même les voit. Le deuxième résultat est que cette parole puissante va produire votre guérison. Dans l'Ancien Testament, exemple 15, 26, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Postscriptum 30, « 3, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Postscriptum 103, « 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Postscriptum 107, « 20, il envoya sa parole, elle est guérie, il les fit échapper de la fosse. » G. 33. Si voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondance de paix et de fidélité. E. 53. 5. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris mal. 4. De mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Dans le Nouveau Testament, Mac. 16, 17-18 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. LC. 19 Guérissez les malades qui s'y trouveront. Acte. 10, 38, vous savez comment Dieu, à oint du Saint-Esprit, et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.